arc-en-ciel des petits et gros collabos reste en place. Annie Lacroix-Risse, qu'on remercie, nous le racontera bientôt dans cette émission, que tu peux réécouter sur notre site polymix-et-la-voix-off.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Elle s'était formée en même temps que le reste du système solaire. Il y avait environ 5 milliards d'années, ce qui représentait 15 millions de générations humaines. La planète prit la forme que nous lui connaissons. Mais les changements ne cessèrent jamais. Les vents permanents sculptaient le sol et la poussière se faisait de plus en plus fine. Minérale, et non pas animale, végétale ou même virale. Cela aurait pu se produire, mais non, jamais. Dans les argiles ou les sources sulfureuses, il n'y eut de génération spontanée. Il n'y eut aucune pluie de spores depuis l'espace, ni le moindre attouchement d'un dieu. Quelle que soit la façon dont la vie apparaisse, et nous l'ignorons, elle n'apparut pas sur Mars. La planète rouge roulait dans l'espace, preuve de sa différence en tant que monde et de sa vitalité de pierre. Et puis, un jour, extrait de Mars la Rouge, de Kim Stanley Robinson. Le Labo des Savoirs s'est associé avec Robin Isnard de la chaîne Tout se comprend pour vous proposer un live Twitch que vous pouvez retrouver bien sûr sur sa chaîne ainsi que ce podcast en deux parties pour tout savoir de Mars et de la mission Mars 2020. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Suzanne Conway du laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes, ainsi que Franck Montmessin du LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale. Suzanne est géologue de formation, médaille de bronze 2020 du CNRS et a notamment travaillé sur la géologie de Mars. Franck Montmessin, pour sa part, a travaillé sur l'instrument SuperCam de Persévérance. Mars 2020, pourquoi persévérer dans l'exploration de la rouge ? Deuxième partie. Bonne écoute au Labo des Savoirs.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Et avant de retrouver nos invités, plongeons sur le site d'atterrissage de Persévérance avec Aurore Carcel.
Jessica Flao, donc tu es chargée de recherche au Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy et tu es géologue martienne et lunaire. Tes travaux portent sur l'étude de surface planétaire à travers l'analyse de données de missions spatiales qui sont renvoyées par des satellites et des robots. Tu travailles depuis plus de 10 ans en collaboration avec diverses agences spatiales comme l'ESA, la NASA ou le CNSA, et entre autres sur les choix et la caractérisation des futurs sites d'atterrissage sur la Lune et sur Mars. Est-ce que tu peux nous parler des différentes missions auxquelles tu as contribué ?
Oui, alors j'ai la chance au quotidien de travailler sur des données de missions spatiales de Mars, de la Lune, donc d'un certain nombre de missions, surtout les satellites qui nous renvoient des tonnes d'images. Ça représente des téraoctets de données accumulées tous les jours. Alors plus précisément pour ce qui est sélection, caractérisation des sites d'atterrissage, j'ai travaillé sur Mars, sur ExoMars qui va partir en 2022. Donc ça fait déjà 9 ans que je travaille sur cette mission. Et puis j'ai eu la chance plus récemment de m'associer à un laboratoire chinois pour travailler sur l'étude de la région choisie pour Tianwen-1. Il vient juste de se mettre en orbite autour de Mars et devrait poser un robot au mois de mai. Voilà. Sur la Lune, après, j'ai travaillé sur des études globales pour le programme Constellation de la NASA, qui malheureusement a été annulé. Et puis plus récemment, sur les missions russes Luna 25 et 27, qui seront en collaboration européenne, on l'espère, et sur les missions chinoises Chang'e 4 et Chang'e 5.
Et du coup, c'est quoi un site d'atterrissage idéal? Est-ce que ça dépend des objectifs scientifiques de la mission ou est-ce qu'on cherche d'abord la sécurité?
Alors, idéal, c'est un bien grand mot. C'est difficile d'avoir un site idéal parce que on va devoir faire des compromis, justement, entre trouver un site où on peut se poser en toute sécurité, mais qui réponde aussi aux objectifs scientifiques de la mission. Il va vraiment falloir faire un compromis et on peut pas se poser, on est loin de pouvoir se poser où on veut. Alors, par exemple, si on prend la mission ExoMars, qui se posera sur Mars en 2022, rien qu'en répondant aux critères techniques qui nous permettent de nous poser en toute sécurité, ça exclut à peu près 80% de la surface de Mars. Donc, il n'y a que 20% de la surface de Mars qui est déjà accessible. Et parmi ces 20%, il va falloir ensuite trouver des sites qui répondent vraiment aux critères scientifiques de la mission.
Et du coup, quelles sont les données dont tu disposes au moment de choisir un site d'atterrissage?
Alors, on va bien évidemment s'appuyer sur l'expérience des missions précédentes, même si, en général, on repose très rarement un robot au même endroit. Et on va après principalement utiliser tout ce qui est données de télédétection, c'est-à-dire qui ont été acquises par les satellites sur les zones qui nous intéressent, et combiner différents types de données. Donc, en général, avec les différentes sondes qu'on a, on peut récupérer des données de topographie, d'altitude, mais également des images prises par des caméras à très haute résolution, des données de spectroscopie qui nous renseignent sur la composition de la surface, des données géophysiques qui, par exemple, nous informent sur des propriétés d'épaisseur de la croûte, le champ de gravité, des choses comme ça. Donc, on combine un maximum de données et ensuite, on essaye de les faire parler pour qu'elles répondent un maximum à nos critères.
Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément quelles sont les contraintes que tu dois prendre en compte pour choisir un site d'atterrissage?
Alors, on a d'abord des contraintes techniques qui sont fortes. Il faut savoir que quand on se pose, que ce soit sur Mars ou sur la Lune, on ne va pas se poser à un endroit précis. En général, on a une barre d'erreur et donc on définit ce qu'on appelle une ellipse d'atterrissage. Ça peut être de quelques kilomètres sur la Lune à plutôt des dizaines, voire centaines de kilomètres sur Mars. C'est la précision avec laquelle on se pose. Donc, on va chercher des zones de cette taille qui répondent à nos critères. Et les critères techniques, ça va être d'avoir une pente pas trop élevée, de se poser dans un endroit plutôt plat, d'avoir peu de poussière ou de sable, d'éviter tout un tas d'obstacles qui peuvent présenter des dangers comme les dunes, les rochers, les cratères. On va avoir aussi des contraintes sur la réflectivité des terrains puisqu'on a besoin d'utiliser un signal radar pour se poser. Des contraintes sur la latitude aussi. La plupart des missions qu'on envoie fonctionnent sur panneaux solaires, donc on essaye de se poser plutôt près de l'équateur, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, si on veut que notre mission ait une certaine durée, une certaine longévité. Et puis enfin, sur Mars, il y a aussi un critère d'altitude, puisqu'on utilise des parachutes pour se freiner lors de la descente dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas se poser à trop haute altitude, on ne peut pas se poser sur les hauts plateaux. Donc en général, on va chercher des lieux d'atterrissage qui sont assez bas en altitude. Et si on rassemble rien que ces critères techniques, on se retrouve avec une grosse partie de la surface ou de Mars ou de la Lune qui n'est pas accessible avec les méthodes d'atterrissage que l'on utilise à l'heure actuelle. Alors ensuite, on rajoute des critères scientifiques, bien sûr, pour répondre à nos objectifs. Ça peut être des objets géologiques qui nous intéressent, mais il suffit pas qu'il y ait cet objet présent, puisque comme je le disais, il y a un problème aussi de précision de l'atterrissage. Donc en général, on essaie aussi de faire en sorte que ce qui nous intéresse soit présent à plusieurs endroits dans l'ellipse et assez distribué un peu partout dans l'ellipse pour que quel que soit l'endroit où on se pose, on puisse l'atteindre. Donc par exemple, si on a envie d'aller étudier d'anciens sédiments sur Mars, on va essayer de trouver une ellipse d'atterrissage où est-ce qu'on a des sédiments présents un petit peu partout sur une zone qui fait au moins quelques centaines de kilomètres carrés.
D'accord. Et du coup, tu nous disais qu'il fallait parfois faire des compromis. Comment est-ce que tu fais pour choisir quels paramètres tu vas prendre en compte en priorité et lesquels tu peux laisser de côté?
Alors ça, c'est pas nous qui le définissons. Malheureusement, les agences spatiales, en priorité, ça va être la sécurité qui va jouer, puisque si la mission n'arrive pas à se poser, il n'y a pas de mission. Il vaut mieux d'abord choisir un site relativement plat, où est-ce qu'on peut se poser en toute sécurité, ou est-ce que si on a un robot aussi, on peut s'assurer qu'il puisse se déplacer. Donc il n'y a pas que se poser, mais il faut ensuite pouvoir naviguer. Et ensuite, parmi les sites qui sont assez sécurisés, là, on va essayer de choisir lequel est le mieux scientifiquement, donc parmi les possibilités qui nous restent. Mais c'est toujours la sécurité qui prime à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier que ce soit Mars ou la Lune, on est sur un taux de succès des missions qui est d'environ 40%. Donc, on a plus d'une mission sur deux qui échoue encore à l'heure actuelle.
Et donc, du coup, on a Persévérance qui va se poser sur Mars le 18 février. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du site d'atterrissage? Quelles sont ses spécificités? Pourquoi il a été choisi?
Oui, alors Persévérance devrait se poser dans le cratère de G0, qui fait à peu près 50 km de diamètre. C'est un cratère qui est déjà mis en place sur des terrains assez anciens. Et à l'intérieur de ce cratère, on voit que le bord du cratère a été découpé par des petites vallées, des petites rivières, qui sont venues déposer un delta. Alors un delta, c'est juste une agglomération de sédiments qui ont été déposés au fond d'un lac. Donc ce cratère, à un moment, était rempli d'eau, formé un lac, alimenté par des vallées. Et on a accumulé à l'intérieur des sédiments qui ont été ramenés des terrains environnants. On voit depuis l'orbite des signatures, en particulier de carbonate et d'argile, dans ces dépôts sédimentaires. On va pouvoir aller étudier des roches assez anciennes et des minéraux hydratés, donc des roches qui pourraient avoir un certain potentiel pour préserver des biosignatures. Donc ce que va faire vraiment Persévérance, d'une part, ça va être préparer un retour d'échantillons martiens, et dans le cratère Houlet, il va pouvoir collecter un certain nombre d'échantillons géologiques de composition vraiment différentes, mais il va pouvoir aussi étudier un petit peu, c'est son deuxième objectif, rechercher des traces d'une vie ancienne ou actuelle sur Mars. Dans ces couches sédimentaires.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Et impossible de parler de Persévérance sans parler de Supercam, qui est un petit peu la tête de Persévérance, comme on pouvait la voir sur Curiosity. Supercam est un petit peu le grand frère de Chemcam, on va s'en sortir dans toutes ces cams. C'est un instrument qui est vraiment international, voilà, c'est pas qu'un instrument français, il y a aussi des équipes suisses et américaines qui ont contribué à sa conception. Et il est doté de plusieurs instruments, 5 il me semble, dont bien évidemment des spectromètres, mais aussi des caméras et un microphone. Franck, je pense que tu pourrais nous dire un petit mot sur les spectromètres. Par exemple, on a un spectromètre Raman qui va permettre d'étudier la composition des sédiments et qui va tirer ce fameux laser.
Oui, tout à fait. Alors, c'est déjà quelque chose qui existait sur Chemcam. Et je pense que appeler Supercam, c'est pas usurper le mot super, parce qu'il y a vraiment tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Alors, et des fois, il est un peu présenté comme un couteau suisse, c'est-à-dire avec beaucoup de capacités très complémentaires les unes des autres, mais qui effectivement repose sur un, on va dire, un cœur de métier qui est ce qu'on appelle le LIPS. Qui en français se traduit par spectroscopie sur plasma induit par laser. Donc derrière ce terme, cette définition assez barbare, se cache quoi ? Se cache le fait que, en gros, l'idée, c'est de tirer avec un faisceau laser. Alors, pour la petite histoire, le laser est français. Il est développé dans les Yvelines, à Élancourt, par la société Thales, qui a déjà fait le travail sur Chemcam et qui l'a refait sur Supercam. Et donc, ce tir laser va vaporiser la roche. Cette roche va être très chargée en électrons, créer un plasma, et va envoyer des photons à différentes longueurs d'onde. Que chaque longueur d'onde sera diagnostique de la présence d'un composé en particulier. Donc, on utilise le LIPS pour faire la composition élémentaire, c'est-à-dire vraiment les composés. On va à l'atome, quoi, directement, puisqu'on sépare à peu près tout. Et par-dessus, Supercam a rajouté des fonctionnalités. Donc vous avez parlé du Raman. Il y a aussi la spectroscopie infrarouge qui n'était pas présente, qui est aussi une des nouveautés. Et entre le Raman... Alors le Raman, c'est quoi ? Le Raman, l'idée, c'est d'aller exciter une longueur d'onde pour que la roche réémette à une autre longueur d'onde. Et ce décalage en longueur d'onde entre la réception, cette excitation dans le verre et la réémission à une autre longueur d'onde est diagnostique, elle aussi, de la composition plus élémentaire, mais vraiment composition complexe. Donc là, c'est la chimie, c'est les organiques, c'est la roche, la minéralogie, etc. Et si on combine ça avec la spectroscopie infrarouge, qui elle aussi est très sensible au type de roche, éventuellement aux matériaux organiques, avec la possibilité de différencier si on a affaire à des argiles ou plutôt à des carbonates, et ben font que SuperCam est devenu un instrument qui est capable non seulement de remonter à la chimie élémentaire, mais aussi d'aller beaucoup plus loin et jusqu'à la chimie complexe. Mmh. Et ça, tout en gardant, on va dire, ses fonctionnalités initiales. Alors la petite chose amusante, mais qui n'est pas si amusante que ça, c'est le microphone, c'est la première fois qu'on aura des sons martiens qui seront collectés. Et ça fait partie intégrante de l'instrument SuperCam. Il y a deux microphones qui ont été installés et qui vont permettre de collecter des sons. Alors l'idée première, c'est d'abord d'écouter le LIPS. Donc quand le rayon laser est envoyé sur la roche, ça fait un petit bruit parce que ça fait une toute petite explosion, on va dire, dans la roche, voilà, qui se répercute. Et en fait, la manière dont le son est propagé, comment il s'étire en longueur, quelle est son amplitude, ça nous dit tout un tas de choses sur la manière dont le matériau a été pénétré par le laser, comment est-ce qu'il a rendu de la matière vaporisée, etc. Donc il y a vraiment un intérêt là aussi pour la compléter la compréhension, la dureté de la roche et récupérer d'autres informations qui ne sont pas forcément directement accessibles par l'interprétation par les spectres. Mmh. Et puis, à l'autre côté aussi, les sons, ça nous dit quelque chose sur l'atmosphère. Parce que l'atmosphère de Mars, ce n'est pas vraiment l'endroit où vous allez chercher à parler à un interlocuteur assez loin, parce que les sons passent très mal. Donc on peut écouter des choses, mais il faut que les choses se passent relativement de manière proche, parce que le son est assez rapidement atténué. Mais néanmoins, avec ça, on peut aussi remonter en mesurant la vitesse du son, en particulier, on peut remonter à la température dans l'atmosphère très proche de la surface, ce qui n'est pas une mesure facile à faire, mais qui pourra être facilitée grâce à ce microphone. Voilà, donc SuperCam, c'est vraiment un engin formidable dans le sens où il va être un petit peu, il va permettre déjà de dégrossir un peu l'analyse, oui. C'est-à-dire de nous approcher sans avoir à aller, je dirais, au contact directement d'une roche, parce que il faut se comprendre que manœuvrer le rover, c'est quand même toute une procédure. Donc l'amener près d'une roche, organiser le contact, éventuellement la mesure, ça peut être facilité si on sait à l'avance que cette roche là c'est pas forcément très intéressante, parce que on a regardé avec SuperCam et on s'est aperçu qu'elle avait pas des caractéristiques qui a priori nécessitaient le fait qu'on aille se rapprocher et qu'on lance toute une campagne d'analyse supplémentaire.
Okay. Franck, tu as parlé de la chimie complexe. Ça veut dire que ce sont des instruments qui vont essayer de retrouver des molécules, des composés organiques.
Absolument, oui.
Et pourquoi faire ? En quoi est-ce qu'ils sont plus intéressants que des atomes ou des molécules plus simples ?
La chimie complexe, c'est toujours le résultat d'une série de processus qui sont nécessairement intéressants pour l'histoire, pour la compréhension de ce qui s'est passé au sein d'un environnement. On n'arrive jamais par hasard à une chaîne moléculaire particulière. C'est toujours le résultat d'un processus, généralement d'altération, qui va permettre d'aboutir. Mais là, je vais pas prendre trop le micro, parce que je pense que Suzanne est vraiment bien placée pour répondre à ce genre de questions. Ouais. Mais bon, pour faire court de mon côté, ça nous raconte une histoire, ça nous raconte quelque chose. Et après, évidemment, dans l'énigme, on essaie d'apporter des réponses. Mais la chimie complexe, c'est la deuxième phase. On fait d'abord la chimie élémentaire pour avoir la base, et puis après, on va plus loin dans l'analyse. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut voir qu'il y a des argiles sur Mars, et qu'on a compris que les argiles, ça requierait des étendues d'eau stables, pérennes, etc. Donc on voit que on peut après replacer ces informations dans un contexte historique, l'histoire de Mars, de ce qui s'est passé et des événements éventuels qui ont conduit à la formation de ces matières. Mais là, je laisse la parole à Suzanne.
On a vu pas mal d'indices de l'orbite, des choses très intéressantes à voir. Sinon, ce site n'aurait pas été choisi.
Ouais.
Je dis aurait pas été choisi. C'est pas juste choisi. Et comme pour Curiosity, il y avait beaucoup de sites au début qui étaient étudiés profondément pour pouvoir en fait décider où atterrir ce robot. Et c'était pas un choix d'un ou deux gens. C'était vraiment la communauté qui s'est mise ensemble pour voter pour chacun des sites. Il y avait des équipes qui travaillent vraiment sur chaque site. Donc, dans les zones où Jezero, où on a étudié, on a beaucoup d'informations de l'orbite, déjà. Donc, on sait qu'on s'attend à voir, par exemple, des argiles, dont Franck a mentionné. Donc, les argiles sont des composants qui témoignent à l'eau pérenne sur la surface. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Mais aussi on a des signaux d'un espèce de minéral qui s'appelle carbonate. Donc il y a des carbonates qui se trouvent plutôt sur la partie haute du delta. Et en fait le rover va passer dans cet endroit là pour essayer de regarder pourquoi il se trouve là. Mais c'est un peu comme l'histoire de méthane, les histoires de carbonate sur Mars. Ça veut dire que il peut être de la carbonate, mais il peut être aussi lié avec des olivines. Les olivines sont des minéraux qui se trouvent dans des roches volcaniques. Et en fait, des carbonates terrestres trouvent dans les récifs. Mais bon, on ne pense pas que ce sont des récifs, mais dans les océans, donc, ce sont des roches très importantes pour comprendre l'atmosphère martienne, le climat, les conditions dans l'eau, en fait, parce qu'on a besoin de certaines chimies dans l'eau pour les produire.
Oui, tu parles bien des carbonates, là, on est d'accord, c'est ça.
Des carbonates, oui.
Parce que moi, ça me fait penser, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais le carbonate de calcium, c'est connu pour être un composé qui forme les certains sédiments qui sont fossiles, en fait, d'anciens êtres vivants. Est-ce que c'est ça un petit peu, les carbonates sont aussi intéressants à chercher sur Mars parce que on pourrait, enfin, je sais pas si on serait capable de retrouver l'origine exacte, si c'est une origine biologique ou pas, mais est-ce qu'il y a un lien ou pas?
L'origine biologique, je crois, c'est pas une hypothèse préférée. C'est pas parce que on a besoin un type de vie assez complexe pour pouvoir. Par exemple, les carbonates, des calcites de carbonate sont des récifs, des formes dans des récifs ou
Les coraux sont connus pour être
des coraux, ouais. Les coraux, c'est assez complexe, un corail quand même.
Oui, c'est vrai.
comme forme de vie, c'est pas. Et la forme de vie, on s'entend plutôt sur Mars, c'est vraiment des microbes, dans des cellules simples.
Donc pas de quoi faire.
Sans coquilles.
D'accord.
Parce que là, en fait, les calcites de carbonate sont souvent les coquilles, les coquillages qu'on trouve, on mange, en fait, sont formés par ça. Mais aussi, on a aussi des micro-organismes qui ont des coquilles aussi, qui s'appellent les foraminifères, qui sont des tout petites coquilles autour d'un. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à former. Donc là, non, on ne s'attend pas à ça vraiment, mais c'est vraiment des sédiments carbonatés.
Ouais, d'accord.
Qui sont d'origine non biologique, mais quand même des. On peut lire vraiment dedans pour lire l'histoire de la chimie de l'eau, en fait, qui était là à ce moment. Et aussi, on peut lire un peu l'histoire de l'atmosphère grâce à ces carbonates. Mais, comme je disais, c'est pas. On a pensé voir ces signes de l'orbite, mais c'est un peu débattu toujours. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est d'autres choses? Et sans être sur place et les regarder vraiment avec un instrument sur place, on peut pas être sûr. Donc là, ça va être quelque chose on s'attend voir. Et on s'attend voir aussi plein de choses que Curiosity a pu voir. Donc déjà, ce mission-là a nous aidé à construire les instruments plus performants sur Perseverance. Mm-hmm. Parce que déjà, on a ce recul par rapport à ce qu'on a vu déjà. Donc, bien sûr, on s'attend voir aussi des roches volcaniques.
Ah oui, on parlait de volcan tout à l'heure avec Olympus Mons, là, le plus gros volcan.
Ouais. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire aussi, avant qu'on ait envoyé des missions, avant qu'on ait envoyé des missions récemment, dans des dizaines d'années, en fait, tout le monde pensait que Mars était que des laves, en fait.
Ah.
Et donc, c'était juste par fur et à mesure dans les 20-30 dernières années que, ouais, par fur et à mesure, on a rendu compte qu'il y a pas mal de roches sédimentaires.
Mmh.
Quand je dis pas mal, je veux dire, bon, on commence à voir que c'est un peu partout. Au lieu d'être juste un tas là, un petit parti là, et on commence à regarder en détail des images orbitales, des spectres orbitales. Comme je disais avant, on a ce poussière qui se pose partout. Ça pose problème pour nos missions spatiales, nos orbitales. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours voir de quoi se compose la surface. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on a pris aussi longtemps pour vraiment rendre compte que Mars est aussi une planète sédimentaire. Ce n'est pas qu'une planète volcanique, avec des laves... Et les roches sédimentaires sont vraiment très précieuses. Ça nous permet de remonter dans le temps. De vraiment, c'est comme un livre. Ça nous aide pour les géologues à vraiment lire des pages d'histoire. C'est des pages d'histoire qui sont plutôt des pages qui disent, il y avait une rivière qui coulait, il y avait un lac là, il y avait un océan. L'atmosphère était plus dense, l'atmosphère avait plus de oxygène ou moins d'oxygène ou
ouais,
plus
ouais,
de...
C'est ça, c'est reconstruire le passé finalement de la planète, essayer de reconstruire un environnement quoi qui était très particulier.
Ouais, et les températures sur la surface par exemple aussi. Les carbonates sont aussi témoins des préserves à l'intérieur en record du température la surface aussi. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Has grown up a cow.
workers have struck for fame. 'Cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the
science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
Justement, pour rebondir sur le volcanisme dont on a un peu évoqué, est-ce que on peut observer encore des éruptions volcaniques aujourd'hui ou c'est complètement mort?
On n'a pas observé. On n'a rien observé comme éruption actuelle, oui, sur Mars.
Ouais.
Comme je suis un géologue, moi, si on n'a pas réservé nos jours, ça ne veut pas dire pour moi qu'il n'y aurait pas l'activité récente. Comme je dis récente, je suis plutôt dans les mille, les centaines de mille d'années, ouais, peut-être un million. Nos analyses de la surface depuis l'orbite ont démontré qu'il y a certains terrains qui sont assez récents. Comment on peut dire qu'une surface est récente? C'est qu'en fait, on peut regarder le nombre de cratères qui sont superposés sur une certaine surface. Et si c'est récent, il n'y a pas de cratères. Mmh. Donc, en fait, on a des régions où on a des coulées de lave ou d'autres choses de ce genre. Il n'y a pas de cratère. Donc, ça veut dire que c'est une surface assez récente. On a plus en plus d'indices avec l'INSIGHT que Mars bouge à l'intérieur. Donc, si Mars bouge à l'intérieur, ça veut dire, normalement, ça, sur Terre, ce type de mouvement, ça peut être provoqué par la lave qui, ouais, se bouge à l'intérieur.
Ouais, des mouvements de convection dont on parlait au début, de la roche chaude qui se déplace sous la surface. Et donc, ouais, ces mouvements-là pourraient induire un certain volcanisme, mais dont on n'a pas encore la preuve de l'observation, en fait, c'est ça?
Oui, exact. Okay. Et on revient sur la méthane, ça peut aussi être indice d'une activité, ah oui, volcanique.
Méthane.
Ouais, mais bon. Hein.
Donc, on va pas trop en parler parce que sinon Franck
va
s'énerver.
Ça, mais on va éviter. Mais donc il y a des indices sur la surface, peut-être dans l'atmosphère. Mars n'est pas complètement mort sous la surface.
Oui, parce que un des autres enjeux de l'exploration martienne, c'est aussi de comprendre ce qui s'est passé avec son atmosphère, car elle a également évolué, elle s'est dissipée par rapport à celle qui existait il y a plusieurs milliards d'années. Est-ce qu'on peut toujours, Franck, étudier l'évolution de la composition de l'atmosphère, et est-ce que Persévérance a un rôle à jouer, enfin ses instruments ont un rôle à jouer dans la détermination de la composition de l'atmosphère de Mars, actuelle et passée?
Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours besoin de faire des mesures de composition au sol, qui sont une vérité terrain qu'on a du mal à récupérer depuis l'orbite. et que de ce point de vue, Perseverance fera des choses très bien, notamment Supercam, qui aura avec sa capacité de faire des spectres dans l'infrarouge la possibilité de détecter, et dans le visible, de détecter des composés que l'on connaît déjà plus ou moins bien, mais qui nous dit tout un tas de choses sur la chimie atmosphérique martienne, sur les fameux processus d'oxydation qui sont liés à l'oxygène, qui sont liés aussi à l'altération en partie du sol, etc. Alors, il est possible de dire quelque chose sur l'évolution de l'atmosphère quand on regarde les isotopes. Alors les isotopes, donc c'est des avatars de certaines molécules qui ont une petite différence de masse et qui ont à part ça les mêmes propriétés, mais et qui ont qui vivent les histoires un petit peu de manière différente. Et on compare souvent ce qu'on appelle les rapports isotopiques, c'est-à-dire qu'on regarde, je ne sais pas, du CO2 ou de l'eau, et puis on regarde ces isotopes. Alors, il y en a un qu'on connaît bien avec l'eau, c'est l'eau lourde ou l'eau semi-lourde, dont on a tous à un moment donné entendu parler, qui est un isotope de l'eau. Et sur Mars, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on regarde celui de l'eau, on s'aperçoit que Mars a beaucoup plus d'eau semi-lourde, donc du H deutérium oxygène, qu'on en a en proportion sur Terre. Donc nous, on se base sur Terre, on est capable de faire une analyse globale juste en puisant dans les océans, parce que les océans finalement sont très, très, très bien mélangés et toute l'eau qui contient dans les océans, c'est l'essentiel de l'eau qui existe sur Terre. Et à partir de ces mesures-là, on est capable d'avoir une référence. Voilà, c'est une fameuse référence de Vienne, auquel on essaie de comparer à chaque fois qu'on va trouver de l'eau quelque part dans le système solaire et qu'on trouve des isotopes. On vient toujours se mettre en comparaison de ce fameux référentiel de Vienne. Et sur Mars, on s'est aperçu que on avait entre 5 et 6 fois plus d'eau déterrée. Donc d'eau avec un atome de deutérium que sur Terre. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'effectivement, l'eau est partie de Mars. Et l'idée, c'est que comme l'eau lourde est un petit peu plus lourde que l'eau, elle est plus facilement restée sur Mars que l'eau, normale, standard. Parce qu'on mesure aussi plus facilement, c'est aussi pour ça qu'on regarde cet isotope particulier.
Et donc, ce que tu as dit, c'est que.
Une sorte de mystère qu'on n'arrive pas encore complètement à dissiper et qui concerne un peu le système solaire au sens large.
Ouais.
Parce que la question, c'est de savoir quel est ce rapport isotopique primordial, celui qui a peut-être existé. Au moment de la formation du système solaire. Et c'est une question qu'on n'est pas complètement tout à fait en mesure de répondre. Parce que quand on regarde ce rapport isotopique, dans les comètes, qu'on pense être les objets les plus primitifs, on a un peu une carrière de rapports isotopiques qui nous font dire c'est quoi la référence parmi. Et on n'est pas tout à fait certain. Alors au début, on a essayé de trouver des raisons pour qu'on parte d'une même truc et puis après qu'on voit ces différences. Mais entre la Terre, Mars et Vénus, par exemple, qui sont les trois planètes de type terrestre qu'on connaît le mieux d'un point de vue des rapports isotopiques, par exemple, Mars est 6 fois plus enrichi en eau semi-lourde et Vénus est 100 fois plus enrichi que la Terre en eau semi-lourde. Donc on essaie de recoller les morceaux de tout ça en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'interprétation générale, c'est de se dire on est tous partis du même référentiel terrestre, et puis l'échappement progressivement a laissé s'accumuler derrière lui l'eau semi-lourde qui avait tendance à rester prisonnière plus facilement de. Voilà. Donc alors ça c'est un exemple de rapport isotopique qu'on essaye d'interpréter. Les gens qui font du titan vont vous parler plutôt du rapport isotopique de l'argon. Sur Mars, on regarde aussi les rapports isotopiques du carbone. là, depuis quelques temps, on a trouvé un nouveau gaz qui n'était pas arrivé depuis le méthane. Là, on a justement, grâce à TGO, qui nous a permis de lancer vraiment cette quête des nouveaux gaz seulement récemment, avec la détection de chlorure d'hydrogène, pour lesquels on peut aussi regarder les rapports isotopiques, et qui a priori sont plutôt tout à fait semblables aux rapports terrestres. Mais donc voilà, donc l'histoire, on peut aller l'histoire de Mars, on peut aussi aller la trouver dans ces rapports isotopiques.
Okay. Et cette atmosphère, du coup, qui est beaucoup plus ténue aujourd'hui et qui a modifié la composition chimique de l'atmosphère de Mars, pourquoi est-ce qu'elle s'est échappée? C'est à cause de la gravité martienne qui est tout simplement plus faible?
Oui, en grande partie. Puis l'absence de champ magnétique qui... Alors, c'est assez débattu. Hein. Je le dis avec précaution parce que certains vous diront que le champ magnétique protège pas complètement. C'était un résultat qui a été mis en avant en comparant le champ magnétique, enfin justement les problèmes. Parce que qu'est-ce que fait un champ magnétique ? Un champ magnétique, normalement, il permet de vous protéger de toutes les particules énergétiques qui sont envoyées par le Soleil et qui ont tendance à arracher on va dire l'enveloppe atmosphérique de la planète. Et donc on peut perdre une atmosphère en partie de cette manière-là. Sur Mars, c'est le cas. On a probablement eu affaire à un arrachage pour une érosion progressive de l'atmosphère à cause du vent, ce qu'on appelle le vent solaire. Donc c'est un vent chargé en particules énergétiques qui crible un petit peu toute cette atmosphère. Par-dessus, on a pour les éléments les plus légers ce qu'on appelle l'échappement thermique, parce que les atomes d'hydrogène en particulier qui composent l'eau sont capables de s'échapper tout seuls, hein, ils n'ont pas besoin forcément de vent solaire, et ça peut être le... Hein. Et Mars, au début, on a dit, Mars n'ayant pas de champ magnétique, ayant une gravité faible, hein, tout ça fait qu'elle était beaucoup plus vulnérable au vent solaire, à l'échappement thermique, et donc a perdu une grande partie de son atmosphère. Mais certains vous diront en fait que c'est pas forcément l'histoire du champ magnétique est pas forcément quelque chose d'avéré. Tout ça parce que effectivement sur Vénus on n'a pas vraiment de champ magnétique non plus, le champ magnétique intrinsèque à la planète hein, qui naît vraiment de la dynamo, etc. Et que partant de ce principe-là, et en regardant avec la Terre, on se demande vraiment si l'effet du champ magnétique, c'est pas justement d'accréter un peu plus de vent solaire, de le faire se converger vers la planète, et éventuellement. C'est pas clair. J'avoue que personnellement, depuis que, en particulier la mission Mars Express est passée. On a toujours eu cette hypothèse qui était avancée, à mon avis, qui n'a pas totalement fait consensus à l'heure actuelle. Mais et on reste quand même sur l'idée que Mars, sans champ magnétique, était quand même plus vulnérable au vent solaire.
Oui, l'atmosphère de Mars, on peut le rappeler, c'est essentiellement du dioxyde de carbone. Vraiment quelque chose dans lequel les humains et humaines que nous sommes ne pourront pas évoluer. Mais est-ce que comprendre la façon dont l'atmosphère de Mars a été s'est envolée, s'est échappée, est-ce que c'est pas un aperçu de ce qui pourrait nous arriver sur Terre d'ici quelques milliards d'années également? Parce qu'on dit souvent que Mars est la jumelle de la Terre, du coup, est-ce que c'est pas un aperçu final de ce qui va arriver sur Terre d'ici quelques temps? On sera plus là, mais bon.
Disons que ce qui fait que, en particulier, Mars a une petite taille, donc ça l'a pas aidé à garder un climat habitable. Non, quand on vient à faire une analogie avec une autre planète, c'est plutôt Vénus, et on se dit que Vénus, c'est vraiment l'exemple de l'emballement de l'effet de serre, parce qu'on a une énorme pression de dioxyde de carbone qu'on a libéré, parce que en fait en gros on a une pression atmosphérique qui est 90 fois supérieure à celle de la Terre, qui est composée que de CO2, et on a une élévation de température de plusieurs centaines de degrés à la surface. Et en fait, quand on fait la comparaison, on a quasiment le même réservoir de carbone sur la Terre. Sauf que ce carbone, il est piégé sous forme de carbonate au fond des océans. Et que si on devait le libérer, on aurait à peu près la même quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit, moi j'ai plus de facilité à voir l'enjeu d'un emballement d'effet de serre qui pourrait in fine éventuellement faire ressembler la Terre à Vénus. Et c'est ce que certains aiment bien, voilà, agiter un peu comme un chiffon rouge quand on parle du réchauffement climatique. C'est vraiment le cas extrême. Mais ce qui est vrai, c'est que Vénus, ça traduit toute la complexité des systèmes climatiques et de leur possibilité à un moment donné de rentrer dans une phase exponentielle. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup avec le Covid, hein. mais voilà, donc ça, il peut y avoir un emballement très 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 rapide et qui peut se mettre en place et qu'il est et contre lequel il est quasiment impossible de lutter parce que tout le système devient s'entretient de lui-même pour engendrer un effet de serre qui est de plus en plus fort, qui va libérer de plus en plus de vapeur d'eau, qui pourrait libérer par exemple le carbonate qui est présent dans les océans, etc., etc. Donc voilà. Donc si on se projette dans le futur, si on est très pessimiste, on peut se voir un peu comme une Vénus à l'heure actuelle, donc avec une éradication de la vie. A priori, en tout cas, dans les basses couches de l'atmosphère et en surface. Et l'autre cas extrême, ça serait Mars, mais je le vois beaucoup moins parce qu'on n'a pas pour le moment la preuve que l'atmosphère de la Terre se soit échappée massivement. On a quand même gardé l'essentiel du contenu atmosphérique.
Ok, super, super intéressant. Je crois qu'on a fait un bon tour des sujets qu'on voulait aborder. C'est vrai que peut-être la dernière question parce qu'on est quand même très obnubilé autour de la recherche de la vie, tout ça. Je sais que sur Terre, le lieu d'apparition de la vie exacte n'est pas déterminé exactement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs théories qui sont plus ou moins en concurrence, sachant que ça peut être aussi plusieurs possibilités. C'est vrai que sur Mars, quand on parle de recherche de vie, on a plutôt tendance à l'avoir éventuellement, enfin, trace de vie passée, j'entends, sous la surface, là où la matière organique serait pas trop altérée, etc. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer que la vie sur Mars ait pu commencer dans l'atmosphère, par exemple? Enfin, est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles c'est intéressant de creuser, ou il y a vraiment trop peu d'indices, il y a trop peu de choses pour approfondir cette piste-là, finalement, pour celui qui veut? Tiens, pour Suzanne, si tu as un avis là-dessus, comme Franck a beaucoup parlé.
Vie dans l'atmosphère et de Mars, ouais. Je sais absolument pas comment on peut détecter ça de tout.
Comme on parlait beaucoup de phosphine et de l'atmosphère de Vénus à un certain moment, je sais pas s'il y a un regain d'intérêt pour l'apparition de vie ou de, je sais pas.
Ouais, mais la façon dont on aperçoit la vie grâce aux cailloux, c'est grâce aux fossiles.
Ouais.
Directement sur Terre, c'est la façon la plus directe, c'est les restes. Mais par contre, ça marche super bien pour des gens de choses comme des dinosaures, où on a des os, par exemple, assez solides, qui peuvent être préservés et qui ont une morphologie assez bien connue. Dès qu'on commence à parler de préservation des choses qui sont moins solides, les cellules, le pot, mais déjà on sait que même avec les dinosaures, que la préservation des peaux de dinosaures n'est pas gagnée, hein. Il y a des rares exemples de ça. Et on savait que les dinosaures, ce n'étaient pas des petits objets. Hein.
Ouais, bien sûr.
Donc déjà, on avait masse de différentes espèces et on a juste quelques petits exemples de peaux préservées de dinosaures. Et bah, si on remonte un peu plus la vie terrestre, plus longtemps dans le passé, détecter, de voir en fait des restes, des cellules dans les roches, c'est vraiment très très difficile. Ouais. Et on fait ça plutôt avec des bio-indicateurs. Donc là, on vient vraiment, ça devient un jeu de chimie au lieu d'un jeu de morphologie, de voir quelle forme, etc. On est là vraiment sur, comme Franck a évoqué, des isotopes. Des différents équilibres entre différents isotopes chimiques des éléments et parfois on a aussi un peu de forme. Et donc les signes de vie atmosphériques, ça veut dire que peut-être des cellules dans l'atmosphère ou des choses dans l'atmosphère qui font ensuite tomber dans quelque part sur Mars, qui ensuite faut être enfoui à l'intérieur pour protéger de l'interaction. Et donc, ça fait, pourquoi pas. Mais bon, je crois que ces indices-là, ça va être difficile à dire si ça vient d'eau ou si ça vient de quelque chose qui a été à l'intérieur dans la boue, par exemple. Quelque chose qui vivait dans la boue, quelque chose qui vivait peut-être dans les petites fissures, dans les cailloux, ou quelque chose. Je ne sais pas si on peut dire où était la vie.
Oui, bien sûr.
C'est ça que je voulais.
Ouais.
Si on retrouve déjà, c'est pas mal.
Remonter
où
c'est
ça vivait.
C'est le fantasme de beaucoup de chercheurs. C'est plus le fantasme du grand public que des scientifiques, je pense, en fait, souvent, cette question des traces de vie.
Une dernière petite question, parce que c'est vrai que maintenant on a fait le tour de Mars, on a fait le tour de Persévérance, et tout ça pour parler du coup de l'atterrissage de la mission qui arrive jeudi. Et on parle souvent des fameuses 7 minutes de terreur. Une belle expression pour dire qu'à cause de la distance, en fait, Terre-Mars, on ne recevra pas tout de suite les communications, mais pas que, parce que Franck, je crois que tu peux nous parler aussi de l'arrivée dans l'atmosphère du rover, qui ne sera pas très simple, justement parce que l'atmosphère est très ténue. Il y aura des difficultés pour l'atterrissage.
Oui, en fait, Mars, à beau être proche, c'est quand même un objet sur lequel il est vraiment difficile de se poser. Les Russes qui ont essayé quantité de fois n'ont jamais réussi. Moi-même, qui étais impliqué dans la première partie du Trace-Gas Orbiter, en fait, le Trace-Gas Orbiter, quand il est arrivé sur Mars, il a largué une sonde qui devait se poser à la surface de Mars, qui s'appelle Schiaparelli, et sur lequel j'étais responsable d'un instrument, sur lequel j'ai travaillé pendant 8 ans.
Aïe.
On connaît la fin de l'histoire.
Voilà. Ouais. Donc, et je me rappelle que j'étais au centre opérationnel de Darmstadt, aux environs de Francfort, et qu'on suivait l'atterrissage en direct, et qu'on voyait cette belle courbe qui nous disait, voilà, c'était le signal que nous renvoyait Schiaparelli. Qu'on suivait avec beaucoup d'appréhension, et puis qui à un moment s'éteint, mais ça c'était déjà, elle s'est arrêtée d'un coup, et on savait qu'elle devait s'arrêter à un moment donné pour réapparaître après, mais il semblait que là elle s'était arrêtée un peu trop tôt, et en fait elle s'était arrêtée pour ne plus jamais réapparaître. Donc oui, atterrir sur Mars, c'est une vraie gageure. L'Europe s'y est essayée deux fois, a loupé deux fois. Et les Américains ont vraiment un taux de succès qui est invraisemblable, quoi. Je suis vraiment très très admiratif de ce qu'ils ont réussi à faire déjà depuis la fin des années 70 avec la mission Viking. Et alors déjà, bon, ils ont un peu tout inventé sur les manières de se poser, etc. Mais alors avec MSL et maintenant Perseverance, ils ont vraiment réinventé complètement la manière d'atterrir sur Mars. Et la première fois que j'ai vu le film, qui est une sorte de réalisation en réalité virtuelle où on voit l'arrivée, j'ai vraiment cru que c'était un film de science-fiction. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des ingénieurs sérieux aient pu concevoir un tel scénario, ça n'est pas possible. Ils sont sûrs, c'est sûr, ils vont se planter. Il y a trop de difficultés, c'est trop complexe, c'est trop trop, c'est trop incroyable en fait. Et malgré tout, si vous regardez une deuxième fois, vous vous dites mais comment ont-ils fait pour réussir? Parce que l'idée, bon, alors il y a la partie, on va dire, classique à toutes les entrées, bon, et qui sont pareilles. Qu'à part les Américains, jamais personne n'a réussi. Donc la sonde était à un moment donné, à quelques minutes avant d'entrer dans l'atmosphère, va larguer le module de voyage et va se séparer pour rentrer dans l'atmosphère, et puis va se mettre dans une position qui va faire qu'elle va pouvoir corriger un petit peu sa trajectoire et se servir de l'atmosphère pour se freiner. Alors, l'idée, c'est de passer de 20 000 km/h à quelques, quand elle arrive à 2 km de la surface, il faut qu'elle soit à 2 km/h. Donc, il faut qu'en quelques minutes, elle passe de 20 000 à 2 km/h. Donc, c'est quand même une prouesse assez incroyable. Et alors, par-dessus ça, les Américains ont conçu un système qui permet de poser des masses extrêmement importantes, comme le rover, parce que le rover il fait près d'une tonne, donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment une masse très importante, et qui va se reposer sur un grutage va permettre en fait de poser en douceur le rover dans un endroit qu'il aura choisi, c'est-à-dire que il sera en capacité, alors ça n'était pas quelque chose qui était opérationnel à l'époque des MSL, mais toute la sonde de rentrée est équipée d'une cartographie de l'endroit où est censé atterrir. La sonde aura tout un tas de caméras qui va permettre de pouvoir se positionner. Donc il n'y a pas de GPS, mais en même temps là ils auront un moyen de se repositionner par rapport au décor martien et après d'ajuster le positionnement de la sonde et de la grue pour laisser se déposer le rover Perseverance. Ben, croyez-moi qu'on va quand même serrer les fesses très très fort pour que ça marche.
Donc déjà, voilà, merci beaucoup d'avoir été présents tous les trois pour cette compréhension sur Mars. Merci encore une fois Suzanne, Franck et Dounia pour avoir été présents et avoir créé ce contenu très riche sur la chaîne. Je vais vous laisser quand même un mot de la fin, parce que c'est ce que je fais avec mes invités. Chacun votre tour. Vous pouvez dire en un mot, une phrase, voilà, un dernier message que vous voulez faire passer. Vas-y, Suzanne, commence.
Faut toujours rêver, aller dans les étoiles, des pieds sur Mars, un jour.
C'est beau. Franck.
N'ayez jamais peur de choisir une voie qui vous semble comme ça un peu bizarre. C'est Il faut s'écouter, voilà.
Ok, suivre son cœur finalement.
Oui, exactement, voir son cœur,
ses envies,
ses aspirations.
Et Dounia?
Continuer à rester curieux et curieuse. La science et l'exploration spatiale a encore de belles choses à nous montrer pour nous faire rêver. Et il y a des tas de scientifiques qui se donnent corps et âme pour repousser toujours les limites de la compréhension du monde dans lequel on est. Et bonne nouvelle, Perseverance a bel et bien réussi à atterrir sur Mars le 18 février dernier et a survécu aux 7 minutes de terreur. Merci à nouveau à Suzanne et Franck pour leur intervention et à Aurore pour sa chronique. Merci aussi à Robin pour son invitation dans sa compréhension. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux et sur Twitch. Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission au Labo des Savoirs. Vous pouvez nous retrouver sur le site labodessavoirs.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci et à la semaine prochaine.
101.5 FM.
Chacar, por todos.